Allez, on enchaîne avec ce plateau donc, qui a pris vachement de retard, mais les auditeurs s'en foutent complètement. Ils ne savent pas forcément à quelle heure on devait faire ça. On va vous proposer maintenant, sur cette antenne, plusieurs intervenants pour parler clairette, œnologie. Et on est là d'ailleurs pour ça, hein, dans cette fête de la clairette, ça paraît presque évident. Festival de la clairette, les Espiègleries, 4e édition, en ce 16 mai 2015, voilà, en direct de la rue Camille Buffardel. Vous prenez place tout autour, chaussez un casque, messieurs, histoire de bien vous entendre et en plus de parler correctement dans le micro. Le premier qui est prêt, c'est Stéphane Pascal, bonjour.
Bonjour.
Ah, très très loin, Stéphane. On va te rapprocher comme ça de l'oreille. Hein ?
Voilà, là c'est mieux là ?
Ouais, ouais, c'est pas mal. Commence à être mieux capté. Alors, à côté, je vais essayer de me rappeler, c'est Nicolas Fermont, bonjour.
Bonjour.
Chambre de l'agriculture, voilà. Stéphane Pascal pour l'UJVR.
Oui.
Ouais. Olivier Ray, salut Olivier. Parle dans le micro jaune.
Bonjour.
Ah là, vous êtes tous timides, hein ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bon, alors j'augmente tout. Olivier Ray, cave de Die Jaillance, et puis Bernard Pellissier. Alors, où est Bernard Pellissier normalement ?
Alors,
Bernard... Il est parti, ça suffit, un seul de l'UJVR,
voilà,
ça ira.
Exactement, comme on était deux de la même boîte. On...
Alors, tous les trois, vous êtes là. Alors, moi, dans mon déroulé, vous êtes censé être là pour quelque chose qui aurait pu être sympathique, mais qui pour l'instant est en attente. Alors on va tout de suite l'éjecter. Nous devions parler de la future AOC Clairette de Die Rosée qui pour l'instant est en pause. Elle suit une procédure particulière qui fait que voilà, il aurait pu avoir une bonne nouvelle le 13, il me semble, 13 mai. Elle n'est pas tombée, donc il faudra attendre encore un petit peu pour vous. Est-ce que quand même on pourrait l'aborder ? Comment justement ici la Chambre de l'agriculture, d'une part, la cave de Die Jaillance avec l'importance qu'on lui connaît sur le territoire, l'UJVR comme exemple de cave indépendante, vous avez travaillé sur ce dossier ? Olivier.
Oui, bah, on peut toujours l'aborder, bien entendu, mais donc à l'état de projet, hein, puisque voilà, aujourd'hui, en effet, ce vin devait donc après plusieurs procédures, donc était passé en commission INAO, donc c'est l'institut qui se charge de l'agrément des cahiers des charges des vins français en général, donc avait donné son accord de principe, puis. Donc dans cette procédure, donc il y a des délais à respecter. Donc aujourd'hui, le délai se rallonge un peu pour X raisons, quoi, qu'on ne pourra pas non plus aborder là, comme ça en 5 minutes. Mais en effet, de toute façon, on est toujours dans l'espoir et on voit bien que à terme, c'est quelque chose c'est un vin qui sera. Certainement et sûrement présent donc auprès des qui sortiront des vignerons du Diwa quoi. Mmh. Mais en effet il faut attendre encore un petit peu quoi, donc certainement pour la récolte 2016 ou 2017, plutôt 2017.
Alors comment vous aviez envisagé ce projet pour qu'on comprenne la création d'une nouvelle AOC par exemple, enfin comment vous travaillez là-dessus aussi, puisqu'il viendra un jour, en tout cas on l'espère, cette clairette de Die Rosée.
Donc nous donc à l'Union des jeunes viticulteurs et coltins, donc on avait fait déjà un essai au préalable donc avec la chambre d'agriculture puisqu'en fait on a donc une vigne un petit peu donc que l'on appelle le conservatoire où l'on a différents cépages et donc on a fait des essais déjà avec le muscat noir. Qui nous a permis finalement de voir un petit peu comment un jour ou l'autre on pourrait peut-être sortir une clairette de Die Rosée. Voilà.
Donc ça passe d'abord par une phase d'expérimentation.
Exactement, c'est une phase d'expérimentation puisque nous c'est vrai que on fait des vins blancs, mais à l'heure actuelle c'est vrai qu'on n'a pas l'équipement, on n'a pas le matériel pour faire des vins rosés. Et donc petit à petit, il faut que tout ça se mette en place, quoi.
Et cette phase d'expérimentation se fait comment ? Enfin, voilà, vous sélectionnez un cépage, bon, pour faire du rosé. rosé, il faut qu'il y ait un cépage qui ait un tanin rouge, c'est bien ça, une peau rouge en tout cas.
Exactement, oui, qui contiennent des anthocyanes. Donc voilà, c'est vraiment les anthocyanes qui sont contenus dans la pellicule et qui, au biais de la macération, va colorer le jus et va pouvoir nous permettre de faire des vins rosés.
Nicolas Fermont pour la Chambre d'agriculture, voilà. C'est quoi votre rôle ?
Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner un petit peu les outils économiques dans le développement de ce projet. Et donc ça a commencé finalement dans les années 2000 où il y a eu des prospections de fait avec l'Institut français de la vigne et du vin. Une prospection qui a été faite dans tout le vignoble du Diwa où on a sélectionné finalement des pieds particulièrement intéressants. Ces pieds intéressants ont été mis dans des conservatoires et ces conservatoires regroupent finalement la diversité génétique de tout le muscat finalement qui est présent ici. Et c'est à travers de cette diversité génétique qu'on a pu resélectionner des clones de muscat qui sont rouges et qui vont nous permettre finalement d'effectuer la clairette rosée. Donc à partir du bien commun et de toute cette diversité que nous possédons dans nos vignobles à l'heure actuelle.
Oui, ces muscats, on en trouvait de temps en temps comme ça dans les rangées là. Voilà. Progressivement tout le monde les enlevait. En fait là on envisagerait plutôt de se les garder quoi, et de les remettre alors.
Voilà, donc on a prospecté dans toutes les vieilles parcelles plantées dans les années 40-50 et on a justement sélectionné ces muscats rouges mais aussi des muscats blancs qui étaient particulièrement intéressants. On les a isolés et on les a mis dans donc, un conservatoire, une parcelle mère où on a 7 plants de chaque origine finalement. Et c'est ces origines sur lesquelles on travaille maintenant pour resélectionner, pour refaire des nouveaux clones et donc des nouvelles finalement, pas vraiment des variétés de vignes, mais des nouveaux clones qui vont nous permettre de diffuser ce matériel végétal à la profession derrière.
Mais qui lance cette idée ? Parce que là, donc, Chambre d'agriculture, mais c'est la Chambre d'agriculture de Rhône-Alpes, on est sur le secteur de la Drôme. Qui finalement est à l'origine de cette demande ? Est-ce que c'est la Chambre d'agriculture qui se dit « bon, bah, moi je vais conserver » ou c'est quand même les viticulteurs qui ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, Olivier ?
Oui, donc c'est quelque chose de très important, en effet. Oui. D'où vient l'idée ? L'idée vient en général des viticulteurs, puisque c'est le syndicat de la Clairette, c'est-à-dire l'ODG, qui a porté ce dossier. Et donc cette idée auprès donc de l'INAO. C'est les producteurs en général qui sont à la base. Quoi. Voilà. S'il n'y avait pas eu la demande, il faut qu'elle vienne des producteurs.
Pareil, moi aussi je me suis complètement asséché. Donnez-nous de la clairette. On est sec.
Et par rapport à ce que disait Nicolas sur le muscat rouge, on a remarqué, et puis on remarque depuis des générations, que le muscat, on a des parcelles de vignes en muscat blanc qui, de temps en temps, on a des souches de raisin qui ressortent en muscat rouge. On dit que le muscat mute génétiquement, si on peut parler comme ça, mais d'une façon naturelle. Donc on s'est dit pourquoi pas un peu étoffer notre gamme de nos vins blancs en allant sur des vins rosés. Ça c'était et une des premières idées surtout c'était de pouvoir aussi élargir notre gamme de vins effervescents en proposant aux consommateurs qui sont amateurs pour les consommateurs amateurs de vins aromatiques qui est la clairette de Die à base de muscat. Un vin effervescent à base de muscat rosé, avec la couleur en plus.
Et une nouvelle aromatique.
Et en effet, oui, avec une déclinaison aromatique un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est toujours à base de muscat.
Alors on va écarter la question tout de suite. C'est pas que une question de marché, quoi. Ah, le marché du rosé, ça marche bien, il faut se placer dedans. Ça n'a pas été la seule motivation.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Non, en fait, je la pose.
Oui, moi ce que je voulais dire, c'était surtout qu'on élargissait la gamme et c'est pas spécialement pour surfer sur la vague du rosé, voilà, hein, qui c'est vrai qu'aujourd'hui est un vin qui est en développement, grâce aux femmes notamment, puisque c'est des femmes qui sont mises à boire l'apéro entre copines et qui sont à l'origine du développement du rosé.
Ah ouais.
Donc voilà, et comme on sait que la clairette c'est un vin féminin, on s'est dit pourquoi pas.
Moi, je pense que ça, c'est aussi un produit qui peut plaire également aux jeunes générations, qui justement affectionne quand même pas mal ce produit, le rosé, bon voilà, pourquoi pas en boîte de nuit, pourquoi pas dans les fêtes. C'est vrai que, enfin voilà, pour moi c'est aussi peut-être un autre moment de consommation et pour une autre clientèle aussi. Donc voilà, élargir la gamme, c'est bien le but, il me semble, des vignerons.
Alors je crois qu'on l'a jamais dit depuis qu'on est à l'antenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération, on m'a demandé de le faire. Alors, je vais le faire, c'est un festival de la Clairette. Et effectivement, on parle d'un nouveau produit en boîte de nuit, pourquoi pas. Et c'est vrai que la Clairette a ce côté festif, le rosé là aussi. Alors marier les deux, c'était presque une évidence. Donc les procédures suivent leur cours et puis on aura des nouvelles bientôt, évidemment, sur cette antenne. Puisque je vous ai quand même tous les trois, est-ce qu'on pourrait aborder d'autres sujets, notamment comment se portent les différentes autres appellations, comment est-ce que vous travaillez, même le JVR, je ne vous ai jamais eu à l'antenne, par exemple.
Nous, donc déjà pour nous présenter un petit peu, donc on est une petite cave coopérative, enfin voilà, un petit peu particulière, c'est une SCAEC, une société coopérative d'exploitation en commun. Donc en fait, il y a 7 associés qui se sont regroupés, qui travaillent ensemble leur vigne. Ça leur a permis finalement d'investir dans une cave et de faire tout le travail finalement de la vigne, la vinification et la commercialisation ensemble. Donc c'est vrai que c'est une entité un petit peu particulière dans le DIWA et ça nous permet de travailler ensemble.
Voilà, on rappelle, il y a des caves indépendantes, il y a votre formule et puis il y a la cave coopérative. Olivier Ray, allez, présentation de Jaillance.
Moi je suis viticulteur, adhérent donc à la cave de Jaillance. En plus engagé un petit peu au niveau du conseil d'administration de cette cave. Bon, c'est sûr que la cave de Die, c'est la grosse cave de l'appellation, hein, bien entendu, puisqu'on voilà, ça représente
300 coopérateurs, hein, je crois.
À peu près 250 producteurs, ouais. et 70-80% des volumes ou des surfaces, comme on veut. Donc voilà, quoi, ça c'est sur les 1500 hectares de l'appellation, il y en a 1100 hectares à peu près qui sont à la cave de Die. Donc voilà, ça commence à peser. Mais ceci dit, ben voilà, c'est une coopérative, hein, comme on le sait, avec des statuts, des règlements, un homme, une voix, c'est-à-dire que les coopérateurs, qu'ils aient 10 hectares, 1 hectare ou 20 ou plus, ils ont la même importance et le même pouvoir de décision à l'Assemblée Générale de cette coopérative, puisque c'est réglé par des statuts.
Et après, sur le territoire, le fait d'être le plus gros, comment ça se gère, justement, par rapport à l'UJVR, par exemple, ou par rapport à toutes les petites caves qui sont présentes ici dans la rue Camille Bufferdel et les indépendants?
Ça se gère, hein, puisque ça fait quand même des années qu'on existe, que les gens se développent, que ce soit les caves particulières. Ça se gère parce qu'on a quand même un but commun, c'est le vin. Et c'est ça qui, malgré nos différences de culture, de travail, sur la façon de voir, l'avenir sur certains aspects de notre métier, mais n'empêche qu'on a un produit commun, quoi, qui est le vin et qui nous unit, et notamment sur des journées comme ça, on est tous solidaires, en tout cas, pour la promotion de notre produit, et on sait que, de toute façon, le territoire doit beaucoup à l'économie de la Clairette. Et ça, tous les viticulteurs en ont conscience et font en sorte que justement, à travers des journées comme ça, ça se renforce. Mmh.
Festival de la Clairette, les Espiègleries, qui est donc chapeauté, on va dire, par le syndicat de la Clairette d'Audi et des vins du DIWA. Auxquels vous êtes tous adhérents, toutes les caves sont adhérentes. C'est peut-être une obligation d'ailleurs, j'en sais rien.
Voilà, oui, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque le président d'ODG, Fabien Lombard, pourrait expliquer un peu plus précisément les choses.
Je l'ai tout le temps à l'antenne, alors voilà, pour une fois je passe par en dessous. Et donc, comment ça se passe quand on est en dessous?
Majoritairement, tous les producteurs sont adhérents au syndicat de la Clairette, tout simplement pour avoir la reconnaissance de l'AOC.
Ah oui.
Déjà. Mm-hmm. Donc là, à partir de là, chaque viticulteur qui veut, cave particulière ou cave coopérative, négoce, qui produit de la Clairette de Die, donc, qui respecte le cahier des charges AOC, doit être adhérent à l'ODG, à l'organisme de gestion, et respecter le, bon. le cahier des charges pour l'élaboration de ces vins.
Ouais. Et la Chambre d'agriculture dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a des liens avec le syndicat de la Clairette, avec ses caves, en dehors de la création d'une nouvelle appellation par exemple?
Bien sûr, nous avons des liens, nous intervenons essentiellement en accompagnement finalement de toutes ces initiatives qu'on vient de citer à travers plusieurs choses. Donc nous avons parlé du projet finalement sélection de matériel végétal et amélioration finalement de la qualité de nos vignes. Et puis on travaille aussi sur l'amélioration du produit puisqu'on a diverses expérimentations pour finalement travailler, voir un petit peu l'impact du rendement sur la qualité des raisins. Faut-il jusqu'où on peut aller en termes de rendement pour ne pas perdre en qualité, puisque ouais. Ce qui nous intéresse,
la quantité de raisins produites par un pied, par exemple.
Voilà, tout à fait. Mmh. Et puis on travaille aussi sur d'autres aspects, l'impact des techniques de travaux en verre, finalement, sur la qualité du vin. Comment finalement toujours améliorer cette qualité de produit?
Travaux en verre.
Travaux en verre. Donc la vigne. Pour faire de la clairette, il y a beaucoup de travail finalement à la vigne qui sont des travaux d'ébourgeonnage. Donc on retire tous les rameaux indésirables.
Ouais. Les pamprages, on appelle ça ici.
Les pamprages, ouais. Tout à fait. On peut aussi faire des vendanges en verre, donc retirer des grappes pour diminuer la production. Il peut y avoir des effeuillages, retirer des feuilles par endroits pour limiter un petit peu les maladies. Et on essaye de quantifier finalement l'impact de toutes ces techniques sur la qualité du vin de façon à pouvoir les utiliser au mieux pour toujours produire la meilleure clairette possible. Et donc nous on intervient finalement sur ces références-là, sur cette acquisition de références et cet accompagnement de la profession.
Et puis aussi par exemple sur l'enverdissement des rangées. Travailler des fois ça aussi.
Donc on...
Est-ce que ça a un impact le fait de planter entre les rangées sur la qualité du vin?
Donc tout ce qui est ça, bien sûr, tout ce qui est donc finalement on va rentrer un petit peu donc à travers des enherbements, on va pouvoir rentrer sur une régulation de la vigne et si c'est fait de façon raisonnée, on peut amener moins de croissance de la vigne, moins de vigueur, ce que l'on appelle, et donc pouvoir améliorer aussi la qualité des raisins. Mais tout ça doit se raisonner, tout ça ne peut être, ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, c'est vraiment toujours essayer de comprendre comment bouger le curseur pour toujours amener au mieux. C'est pas une technique qu'on peut calquer et dire toutes les vignes doivent être enherbées pour avoir une meilleure qualité. Pas forcément, il y a des endroits où oui, d'autres non. Et nous, on intervient toujours sur comment placer ce curseur par rapport à un terroir donné. Voilà.
Est-ce que pour les viticulteurs que vous êtes, Olivier, Stéphane, est-ce que la Chambre d'agriculture, c'est un organisme de tutelle ou qu'est-ce que c'est? C'est à l'appel des viticulteurs eux-mêmes?
Oui, non, mais en fait, la Chambre d'agriculture, c'est absolument pas un organisme de tutelle. Hein.
Ouais.
C'est pas le... Non, on n'est pas sous tutelle encore.
Voilà, j'ai fait exprès. Non, hein.
Voilà, bien sûr, j'ai compris l'humour. Et donc,
c'est simplement
de l'appui technique à notre demande, en fait. Voilà.
Voilà.
Et quand on demande à la Chambre des cultures, donc notamment d'expérimenter telle ou telle technique sur l'enherbement des vignes, mais qui date depuis pas mal de temps, pour notamment avoir des raisins sains, pour limiter également le nombre de traitements phytosanitaires, enfin voilà, tout ça, c'est... C'est un organisme référent qui a des références pour tout ce qui est technique de production. Quoi. Mm-hmm. C'est à chaque fois à la demande des viticulteurs, quoi, dans le cadre du syndicat de la Clairette, souvent.
Écoutez, moi je permets comme ça aux auditeurs de découvrir aussi votre travail imbriqué les uns les autres. Est-ce que vous... C'est votre instant, je ne pose pas de questions tout à l'heure.
Ce qu'on pourrait dire actuellement, c'est que la Clairette de Die se porte bien malgré tout sur les marchés de vin effervescent.
Pourquoi malgré tout?
Parce que, disons malgré tout, parce que on est quand même dans un marché concurrentiel, mondialisé, même ici à Die, au fin fond de la Drôme. On est donc essentiellement distribué en grande distribution, grandes enseignes. Hein. Pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire chez les
dans les grands supermarchés.
Dans les grands supermarchés. Et on est confronté à des concurrents qui n'ont pas spécialement les mêmes règles de production que nous, les mêmes règles sociales. Voilà.
Pas forcément d'AOC même.
Et pas forcément d'AOC. Donc essentiellement, on peut avoir en face de nous des gens qui font du vin effervescent avec des vins de base qui viennent à bas coût
d'assemblage de
oui, de pays, des pays, oui, de pays différents, quoi, ouais, ouais. Complètement différents de pratiques du nôtre, quoi. Donc, ben voilà, ça, c'est bien se porter dans un marché hyper concurrentiel comme ça, c'est quand même un challenge qu'il faut qu'on a relevé, qu'il faut qu'on conserve. Voilà, et c'est pas évident à tous les jours à conserver, justement, quoi. Donc, voilà.
Donc malgré tout, ça passe.
Malgré tout, ben voilà, il faut toujours avoir un peu d'innovation, quoi, hein, que ce soit sur l'aspect production, qualité des raisins, que ce soit la vigne, que ce soit sur toutes les techniques de vinification. C'est un peu des gros mots, mais ce qu'on appelle les méthodes industrielles pour vinifier, ben voilà, il faut qu'on se mette chaque fois dans nos caves au goût du jour. Avec des techniques nouvelles sur la vinification, qui, tout en gardant la tradition, bien sûr, hein, tout en dénaturant pas notre produit, mais qui nous permettent à terme, ben voilà, de toujours être plaisant et concurrentiel. Mmh.
Et en termes de rendement, voilà, c'est ça.
Voilà, voilà, c'est ouais. Ça. Malgré tout, oui, voilà. Mmh. Quelque part, on est obligé de, c'est un passage obligé, quoi.
Ben, on peut le dire pour des gens qui nous écouteraient de je ne sais où et qu'il a traîné des fois une réputation un peu étonnante sur la Clairette, sur sa qualité, et que quand même ces 10-15 dernières années, ça a été vraiment le plus gros du travail qui a été fait sur améliorer cette qualité et de manière uniformisée sur que ce soit la cave, la plus grosse cave coopérative, mais aussi l'ensemble des autres producteurs. Là encore une fois, vous avez gagner peut-être des galons à force de persévérance sur la qualité. Et les marchés étrangers ?
Les marchés étrangers, bien sûr, voilà, on essaye d'y être présent. C'est assez compliqué pour les mêmes raisons que ce que je citais précédemment. Malgré tout, sur certains segments de marché, on a notre place. Sur aussi des gammes bio, certainement. Dans certains pays, voilà, on a des atouts à jouer là-dessus. Voilà un peu, mais après, voilà, le monde est grand, vaste, la concurrence aussi.
Allez, on reste sur une note positive. Le bio qui d'ailleurs se développe pas mal quand même dans notre secteur, qui a été même biovalléisé à un moment par la région Rhône-Alpes. Je vous remercie tous les trois. Je vais reprendre les noms précis. Nicolas Fermont pour la Chambre d'Agriculture Rhône-Alpes.
De la Drôme.
Ah ouais, ben bon, j'ai eu Rhône-Alpes. Donc Rhône-Alpes détaché de Drôme, hein, on va dire. Bon, spécial Drôme, c'est très bien, très bien. Je taperai sur le syndicat de la Clairette après. Stéphane Pascal pour le JVR. Merci. Et Olivier Ré pour la cave de Digeillance. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci.